cantonales, régionales, à gauche toutes, ou presque. Les élections cantonales et régionales vont se traduire en mars 2004 par un net changement de cap qui crée quelques surprises. 29 mars 2004, l'aurore aux doigts de rose. Le printemps 2004 est celui de la fièvre préélectorale. Dans chaque camp, on fourbit ses armes pour remporter les élections régionales ou cantonales. Seule la moitié de chaque conseil général est renouvelée. L'autre moitié le sera en 2007, année des élections municipales. Le 21 mars, à l'issue du premier tour pour les élections régionales, la gauche totalise 40,24% des voix, auxquelles s'ajoutent les 4,99% de l'extrême gauche. À droite, les résultats sont les suivants. UMP 23,3%, UDF 11,9%, extrême droite 16,32%, divers 3,25%. Le bélier de la gauche est-il en train d'enfoncer la forteresse de la droite? Le lundi 29 mars, sur toute la France, se lève celle qu'Homère appelait l'aurore aux doigts de rose. Le ciel est en effet tout rose sur la ligne d'horizon vers 7 heures, l'heure à laquelle les Français prennent conscience que c'est désormais la couleur de leurs conseils régionaux, sauf l'Alsace. Le PS, premier conseiller général de France. Pour ce qui concerne les élections cantonales, sur 2034 sièges renouvelés, 834 vont au Parti socialiste, 200 aux divers gauches, 108 au Parti communiste, 44 aux radicaux de gauche, 4 à l'extrême gauche, 4 à l'extrême droite, 468 à l'UMP, 265 aux divers droites, 68 à l'UDF et 23 aux divers et inclassables. Le Parti socialiste devient ainsi le premier parti de France dans les conseils généraux. Pour la première fois depuis leur création par la Constituante en 1789, certains conseils généraux passent à gauche, ainsi celui de Loire-Atlantique. Au total, 10 assemblées départementales de plus passent à gauche. Charente, Charente-Maritime, Cher, Doubs, Drôme, Oise, Saône-et-Loire, Seine-et-Marne, Loire-Atlantique, Ille-et-Vilaine. La droite ne gagnant que la Corse du Sud. Jean-Pierre Raffarin reconduit dans sa fonction. Peu de surprises dans le nouveau gouvernement, dont la composition est annoncée le dernier jour de mars. Au lendemain des élections roses, tout le monde se demande ce que va faire le président de la République. Dissoudre l'Assemblée nationale? Changer de gouvernement? La réponse est rapide. Jean-Pierre Raffarin, qui est venu présenter la démission de son gouvernement, est reconduit dans ses fonctions. Aussitôt, le traditionnel balai des limousines aux vitres teintées commence à Matignon. L'arrondi des virages s'efforce de mimer les temps forts des films d'espionnage où la gomme sur l'asphalte pousse son cri d'or frais. Les téléphones sonnent ou ne sonnent pas. Finalement, à 19h30, le 31 mars 2004, la composition du nouveau gouvernement est annoncée. Nicolas Sarkozy devient ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. François Fillon, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Dominique de Villepin, ministre de l'intérieur. Jean-Louis Borloo, de l'emploi. Michel Barnier, des affaires étrangères. Philippe Douste-Blazy, à la santé. Dominique Perben demeure à la justice. Michel Alliot-Marie, à la défense. Jean-François Lamour, à la jeunesse et au sport. Francis Maire des Finances, Noël Lenoir des Affaires européennes, Luc Ferry de l'Éducation nationale et Jean-Jacques Aliagon de la Culture s'en vont. Une tâche gigantesque pour le gouvernement. Les années qui viennent vont être consacrées, notamment, à la réduction du déficit de la dette publique. Le gouvernement s'y est engagé. Des réformes souvent difficiles à accepter sont entreprises. Le nouveau gouvernement, qui offre un visage plus social, va se mettre au travail sans tarder. La tâche est énorme. La dette publique française est colossale. La politique financière menée depuis 2 ans, baisse des impôts, dépenses multipliées ou amputation de recettes diverses, exonération de taxes professionnelles aux entreprises, restaurateurs, chercheurs, filières porcines, laitières, buralistes, hôpitaux, a fait passer les comptes de la France dans le rouge. La France est désormais le plus mauvais élève de l'Europe, avec le déficit public le plus élevé, 4,1% de la richesse nationale produite. L'ensemble de la dette publique s'élève à 1 000 milliards d'euros, soit 16 000 euros par Français. De plus, les 1,7% de croissance espérée pour 2004 sont revus à la baisse et ramenés par les experts de l'INSEE à 1,4%. Le premier grand chantier du nouveau gouvernement échoua à Philippe d'Oust-Blazy, le nouveau ministre de la Santé, remplaçant Jean-François Mattei, emporté par le coup de chaleur meurtrier de l'été 2003. Le nouveau ministre, né à Lourdes, non loin de la grotte de Massabielle, doit tenter de limiter le déficit chronique de l'assurance maladie. 11 milliards en 2003, 29 milliards en 2010, et si rien n'est fait, 66 milliards en 2020. Il faudrait vraiment un miracle. 2004, c'est aussi 4 mars, mort de Claude Nougaro, poète aux 50 ans de chansons. Du 5 au 7 avril, la reine d'Angleterre Élisabeth II et son Altesse royale Philippe, duc d'Édimbourg, effectuent une visite d'État en France. Accueillis par le président de la République, ils viennent célébrer le centenaire de l'Entente cordiale, accord conclu par le Royaume-Uni et la France le 8 avril 1904. Le 1er mai, depuis minuit, l'Europe des 15 est devenue l'Europe des 25. 10 nouveaux pays s'étant ajoutés à la communauté qui compte désormais plus de 450 millions d'habitants. 8 de ces nouveaux pays ont fait partie de l'ex-bloc communiste. L'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Slovaquie, la République tchèque, la Hongrie et la Slovénie. Les deux autres sont des îles méditerranéennes, Malte et Chypre.
L'Europe, une devise, un hymne, une journée. L'Europe. Sa devise, in varietate concordia, en latin, et en français, l'unité dans la diversité. Son hymne, l'ode à la joie, tirée de la 9e symphonie de Beethoven. Sa journée, le 9 mai. Ce jour est la date anniversaire du discours dans lequel Robert Schuman, en 1950, proposait une première ébauche de l'Europe.